Kiosque Magazine.
Bonjour tout le monde, bonjour chers auditeurs, bonjour Christine.
Bonjour c'est... Louise.
C'est Louise Mercier à l'antenne avec Christine Boucard. Nous allons être deux ce matin, on va faire ça comme des grandes.
Bien sûr, bien sûr.
Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui, Christine?
Donc là, on va aborder un dossier sur l'autisme. Donc bonjour à tous, bonjour chers auditeurs, bonjour chères éditrices. Je vais vous lire aujourd'hui, pour débuter, un billet concernant l'autisme.
Ça, c'est très, très... pas populaire, mais malheureusement très, très répandu.
J'aborderai également la culture biologique.
Oui.
Et on fera aussi un petit papier d'humour concernant les familles modernes.
Ah, ben c'est bien, c'est bien. Moi, je vais parler de... Êtes-vous en burn-out amoureux? On va faire le test. Y a une nouvelle qui m'avait beaucoup marquée, c'est que le mari de Mme Sanders est décédé en faisant du tapis roulant. Alors, l'article, c'est « Mourir en santé », « Les vertus de la vapeur », un petit peu de cuisine, et puis les... Attendez un instant que je me retrouve. Ah, la nouvelle adresse pour acheter local. Donc, on a toutes sortes de petites nouvelles comme ça.
Bonjour, donc voilà, je vais vous lire aujourd'hui un article pour débuter cette émission, un billet de Raymond Lemieux, rédacteur en chef de la revue Québec Science, pardon, dans le numéro d'avril-mai 2015. Le titre, place à la neurodiversité, point d'exclamation. En fait, ce papier annonce le dossier consacré à l'autisme par la revue ce mois-ci, avec un reportage exclusif en passant du photojournaliste Jacques Nadeau, qui a fréquenté d'ailleurs pendant 2 mois le monde des autistes. Donc, place à la neurodiversité, point d'exclamation. J'insiste sur point d'exclamation, car neurodiversité, c'est un terme qui, bien entendu, nous renvoie aussi à biodiversité. Vous allez savoir pourquoi. L'auteur commence son article par « Les autistes ont une perception singulière du monde et de la réalité. Cela leur rend la vie plus difficile, ainsi qu'à leurs proches. Doivent-ils pour autant être marginalisés ?» Relégués pendant longtemps dans la catégorie des problèmes mentaux, les cas d'autisme sont maintenant inscrits dans le fameux DSM-5, le manuel de référence en psychiatrie, à l'enseigne des TSA, c'est-à-dire des troubles du spectre de l'autisme. Le mot « spectre », entre guillemets, tel que l'a écrit l'auteur, sonne étrangement dans ce contexte, comme s'il laissait entendre que les personnes affectées par l'autisme sont en quelque sorte des fantômes sociaux. Il reste que l'augmentation spectaculaire des cas d'autisme force une réflexion inédite. Les autistes ne sont pas des malades, simplement, ils ne réagissent pas comme nous, les neurotypiques. Par neurotypique, on entend qu'ils ne sont personne qui n'est pas atteint d'autisme, dans les normes, entre guillemets. Ils ne pensent pas comme nous. Et quelle place leur réserve-t-on en société? La marge, le plus souvent. C'est cette marginalisation que dénoncent, depuis quelques années, plusieurs autistes militants au créneau, qui du même souffle font valoir l'intelligence particulière les caractérisant. À l'instar des écologistes qui parlent de biodiversité, eux parlent désormais de neurodiversité. L'Américain Jim Sinclair est l'un de ces activistes pour la défense de la neurodiversité. En 1993, à Toronto, cet autiste devenu aujourd'hui célèbre a prononcé un discours à l'adresse des parents qui fit encore jaser. Il racontait « Vous essayez d'entrer en contact avec votre enfant et l'enfant ne réagit pas. Il ne vous voit pas. Vous ne pouvez pas l'attendre. Il n'y a rien qui passe. C'est la chose la plus dure à supporter, n'est-ce pas ? Sauf que ce n'est pas vrai. Reconsidérez cela. Vous essayez d'entrer en contact de parent à enfant. Et vous utilisez pour cela votre propre compréhension des enfants normaux et vos propres sentiments sur la parentalité. Cela signifie seulement que vous adoptez un système commun, une compréhension commune de signes et de significations que, dans les faits, votre enfant ne partage pas. Comme si vous tentiez d'avoir une conversation amicale avec quelqu'un qui ne comprend pas votre langue. » Fin de citation. Ainsi, poursuit l'auteur Raymond Lemieux, ainsi, éduquer un enfant autiste ne peut pas être simple. Pour les parents, c'est un véritable et très lourd défi. Puis encore, il faut considérer que se posera par la suite un autre problème qui pourrait peser sur tout le reste de la vie d'un individu autiste, son intégration à la société. Heureusement, plusieurs autistes sont parfaitement à l'aise dans l'environnement informatique ainsi que dans le monde virtuel. Et le marché du travail fait preuve maintenant d'ouverture à leur endroit. Des centres d'emploi pour autistes ont été mis sur pied un peu partout dans le monde. Un groupe comme Action Main-d'œuvre à Montréal, par exemple, vise l'insertion des autistes sur le marché du travail. Si les entreprises gagnent à miser sur leur intelligence particulière, il y a une contrepartie qu'un responsable des ressources humaines de n'importe quelle boîte va devoir considérer. Bien qu'ils soient rigoureux, loyaux et créatifs, comme le disait aussi Jim Sinclair, les autistes ne sont pas trop habiles en matière de relations sociales et sont incapables de mentir ou d'user de diplomatie dans leurs échanges. Un patron se trompe ? Il le souligne devant tout le monde en réunion. On comprend que cela puisse provoquer quelques malaises dans les milieux de travail fragiles. Certes, notre monde n'est pas encore adapté à la neurodiversité, mais on devine déjà les atouts que cela peut représenter. Et surtout, elle nous donnerait une sacrée belle occasion de repenser en profondeur la nature humaine.
Donc, êtes-vous en burn-out amoureux? Je trouve que c'est une excellente question en ce mercredi matin ensoleillé. C'est Julie Champagne qui a publié ça dans Moi et compagnie le 11 mai dernier. Depuis quelques mois, notre couple bat de l'aile. Il est loin le temps des nuits torrides et des promesses enflammées. On accumule les frustrations, on met en doute la profondeur de nos sentiments, on ne sait plus quoi faire pour sauver le paquebot du naufrage. Et si on vivait un burn-out amoureux? On a rencontré le psychologue François Saint-Père, qui vient de publier un livre fort intéressant sur le sujet. Plus de 2 couples sur 3 connaîtront cet état de torpeur sentimentale. François Saint-Père, psychologue et auteur. Si on connaît de mieux en mieux le syndrome d'épuisement professionnel, on sait nettement moins que ce type de léthargie peut aussi toucher le couple. Fruit du cumul de nombreuses insatisfactions, l'épuisement amoureux est un état physique, mental et émotionnel qui vise un nombre croissant de couples aguerris. Au cœur de cet épuisement se trouve un état d'ambivalence où la personne est malheureuse, mais on ne peut encore assumer la rupture avec toutes ses conséquences, indique le psychologue et auteur François Saint-Père. À la fois lourd et douloureux, le burn-out amoureux découle de l'usure du temps, des déceptions et parfois même du manque de respect. On a la libido en veille, on doute de nos sentiments, on a moins envie de fournir des efforts pour améliorer la relation. Cette lassitude sentimentale peut perdurer des semaines, voire des mois. On se sent comme 2 colocataires, 2 parents. Selon la sexologue clinicienne Amélie Blanchette, cet état peut résulter d'un événement marquant, comme il peut s'installer sournoisement. La naissance d'un enfant, un nouveau défi professionnel, une infidélité. Plusieurs événements peuvent déclencher le burn-out amoureux. En revanche, il se peut aussi que le processus soit doux et pernicieux, sans éléments déclencheurs précis. Une certitude, tous les couples connaissent, un jour ou l'autre, des périodes de turbulence. L'important est de revenir vers la relation après la transition. Certains relancent leur couple aussitôt qu'ils sentent que l'amour s'étiole, alors que d'autres peinent à remonter la pente, dit l'experte. Les étapes du burn-out amoureux. Si le phénomène ne touche pas tout le monde, le psychologue François Saint-Père estime que plus de 2 couples sur 3 connaîtront un jour ou l'autre cet état de torpeur sentimentale. L'épuisement suit généralement une séquence bien précise. De la passion des premiers temps, on passe à l'étape de la différenciation. On se comporte alors tel que nous sommes vraiment, et non pour faire plaisir à l'autre, explique François Saint-Père. À l'inverse, on voit également notre partenaire avec ses forces et ses faiblesses. Bien sûr, cette collision avec la réalité est parfois difficile. On déchante, on se dispute, on se fait des reproches. Si les conflits ne sont pas résolus et si les insatisfactions sont sans cesse refoulées, le couple bascule alors vers la prochaine étape, soit celle de l'éloignement. À ce stade, on a l'impression d'avoir tout tenté pour résoudre les difficultés, indique François Saint-Père. Nos besoins non comblés persistent, mais on note une baisse des conflits. Les partenaires se détachent alors, surtout les femmes. L'indifférence se transforme en épuisement amoureux, dernière étape de cette agonie sentimentale. Prévenir plutôt que guérir. Les exigences élevées, les impératifs sociaux et les responsabilités parentales exercent une pression constante sur tous les couples. Jamais il n'a été plus difficile de faire perdurer une relation amoureuse. Il y a toujours un certain niveau d'insatisfaction dans un couple, explique Amélie Blanchette. C'est normal. Il faut seulement s'assurer qu'il ne devienne pas trop grand. Si on accumule, si on se sent incomprise, impuissante ou déconnectée, on est plus susceptible de dégringoler vers le burn-out amoureux. Il est heureusement possible de prévenir cette descente aux enfers. Le meilleur indicateur de la longévité d'un couple, c'est l'appréciation du partenaire, explique François Saint-Père. Il faut reconnaître l'importance que l'autre a dans notre vie, souligner ses accomplissements, se réjouir de sa présence. Trop souvent, on a tendance à remarquer les mauvais aspects de notre relation et de notre partenaire. Pour éviter le burn-out, on tourne plutôt notre attention vers ce qui va bien, sans inventer ni exagérer. En effet, poser un regard neuf sur notre partenaire ouvre de nouvelles perspectives de rapprochement. Une autre stratégie préventive, on se donne des lieux de rencontre qui nous ressemblent. Que ce soit par obligation professionnelle ou par habitude, plusieurs partenaires ne partagent pas le même horaire. Ils ne se réveillent pas en même temps, ils ne mangent pas en même temps, ils ne se couchent pas en même temps, raconte Amélie Blanchette. Il est alors difficile de se trouver des points de rencontre. Les discussions deviennent routinières, on parle du lait qu'il faut acheter ou du petit qui est encore malade. Il importe de se trouver des lieux de connexion qui correspondent à notre couple. Ce peut être de prendre une marche, de voir des spectacles, de manger au restaurant. L'important est de vivre une expérience ensemble. « Je t'aime moi non plus. » Las de notre partenaire, on patauge en plein marasme sentimental et on envisage de plus en plus sérieusement la rupture. Est-il trop tard pour renverser le cours des choses? Les experts sont unanimes. Il est encore possible de sauver les meubles. C'est souvent quand on réalise qu'on risque de perdre notre partenaire, qu'on se mobilise et qu'on décide de faire ce qu'on négligeait depuis des années, affirme François Saint-Père. Le burn-out est un état douloureux, mais c'est aussi une belle occasion de poser un regard neuf sur soi et sur sa relation. Loin d'être une fatalité, le burn-out amoureux est donc plutôt un écueil qu'il est possible de franchir et qui peut donner au couple une nouvelle impulsion. Évidemment, plus la relation s'est dégradée, plus il faudra du temps pour la relancer. Si le temps et les efforts ne manquent généralement pas de faire leur œuvre, il n'existe aucune garantie que le couple connaîtra un second souffle. Le plus difficile? Communiquer sans animosité. Selon la sexologue Amélie Blanchette, la consultation devient alors incontournable. Il nous faut un intermédiaire neutre pour nous aider à nous dépatouiller sans nous blesser davantage. Est-ce que les deux partenaires finiront par se rejoindre? Impossible de le prévoir. Mais s'ils décident de mettre la main à la pâte, c'est signe que l'indifférence n'est pas encore complète. Il y a de l'espoir.
Les matins se suivent et se ressemblent. Quand l'amour fait place au quotidien, on n'était pas fait pour vivre ensemble. Ça ne suffit pas toujours de s'aimer bien. C'est drôle, hier on s'ennuyait, et c'est à peine si l'on trouvait des mots pour se parler du mauvais temps. Et maintenant qu'il faut partir, on a 100 000 choses à dire qui tiennent trop à cœur pour si peu de temps. On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain. À demain qui vient toujours un peu trop vite, aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien.
fait ce qu'il faut, on tient nos rôles. On se regarde, on rit, on craint un peu. On a toujours oublié quelque chose. C'est pas facile de se dire adieu. Et l'on sait trop bien que tôt ou tard, demain peut-être ou même ce soir, on va se dire que tout n'est pas perdu. De ce roman inachevé, on va se faire un conte de fées. Mais on a passé l'âge, on n'y croirait plus. On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain qui vient toujours un peu trop vite, aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. Roméo, Juliette et tous les autres, au fond de vos bouquins, dans mes en paix, une simple histoire comme la nôtre, et de celle qu'on n'écrira jamais. Allons petit, il faut partir, laisser ici nos souvenirs. On va descendre ensemble si tu veux. Et quand elle va nous voir passer, la patronne du café va encore nous dire salut les amoureux. On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain. Pas demain qui vient toujours un peu trop vite, aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien.
Alors, on voit que Joe Dassin n'a pas résisté au burn-out amoureux dans sa chanson. Donc, on va passer à « Mourir en santé » qui a été publié le 9 mai dernier par, attendez un instant, Marie-Claude Lortie. C'est une nouvelle qui m'a vraiment surprise. Le mari de Sheryl Sandberg, qui est la numéro 2 de Facebook, est décédé en faisant du tapis roulant au Mexique il y a une dizaine de jours. Donc, au départ, la nouvelle est sortie sans le moindre détail. David Goldberg, patron de la firme SurveyMonkey de Silicon Valley, mari de la numéro 2 de Facebook, Sheryl Sandberg, est mort. C'était vendredi, il y a 8 jours. Et puis, l'affaire s'est précisée. Goldberg, 47 ans, a été retrouvé mort sur le plancher de la salle d'exercice d'un grand hôtel au Mexique. Il gisait dans son sang à côté d'un tapis roulant, visiblement victime d'un grave traumatisme crânien. Aucune trace de violence. L'homme est mort à la suite d'un accident. Et puis, cette semaine, d'autres données ont commencé à faire surface. L'entrepreneur, père des 2 enfants de Mme Sandberg, avec qui il a été marié pendant 11 ans, faisait de l'arythmie peu avant sa mort. Est-ce l'arythmie qui a causé sa chute? Est-ce le traumatisme de la chute qui a causé le problème cardiaque? A-t-il trébuché sur son tapis au point de se casser la figure parce qu'il ne connaissait pas l'appareil? A-t-il été distrait par quelque chose, comme son téléphone intelligent? Avait-il une malformation congénitale inconnue au cerveau, expliquant qu'une simple chute et un traumatisme crânien banal aient eu des conséquences aussi tragiques? Je ne peux pas m'imaginer qu'une simple chute du tapis, même à haute vitesse, ait pu causer ça, répond le spécialiste du cerveau et neuropsychologue Dave Ellenberg de l'Université de Montréal. À mon avis, il devait y avoir une fragilité. Une fragilité artério-veineuse, une malformation. Il n'est pas rare, dit-il, qu'on vive pendant des années avec une malformation congénitale sans le savoir. Qu'aurait pu avoir M. Goldberg? Le professeur n'en a aucune idée, juste un doute. Le kinésiologue Daniel Kernier, également de l'Université de Montréal, se pose aussi bien des questions. A-t-il trébuché ou a-t-il eu un étourdissement? Faisait-il souvent de la course sur un tapis? Est-ce un tapis qu'il ne connaissait pas? Il est extrêmement rare que des gens meurent en tombant de tapis roulant, en faisant de la course. Mais il n'est pas rare qu'on se blesse, plus ou moins légèrement, avec de tels appareils, note M. Curnier. Si on ne connaît pas bien le tapis, sa mesure, ses fonctions, on peut faire un faux pas, appuyer sur le mauvais bouton. M. Curnier se rappelle un incident dramatique. Une personne qui avait perdu pied et s'était accrochée au poignet du tapis pendant de longues secondes, laissant ainsi ses genoux se faire râper au sang. Le hic, cette personne prenait des anticoagulants. Tous ceux qui travaillent dans les centres sportifs dotés de tapis roulants vous le diront, et YouTube le confirme, des tas de gens tombent chaque jour des tapis roulants, ce qui crée des situations plus ou moins graves, souvent cocasses. Parfois, ils oublient que le tapis roule déjà quand ils montent dessus. Parfois, ils reculent trop sur le tapis sans le savoir et se font projeter par celui-ci. Éléments de distraction ou de non-concentration. Les écouteurs. Curnier, qui entraîne notamment des cyclistes, croit que pour ce sport sur route, les écouteurs sont carrément à proscrire. Ils empêchent les athlètes d'entendre les voitures, mais ils conseillent même aux coureurs de les laisser de côté. Pour un entraînement maximal, mieux vaut se concentrer sur l'effort, sur la manière de courir, dit-il. Dans la presse américaine, on a aussi longuement écrit sur la question depuis une semaine. Peut-on à la fois être branché sur un téléphone intelligent avec tout ce que cela comporte de courriels, textos et autres sources de distraction et courir sur des machines de plus en plus complexes? Doit-on voir ce type de course mécanisée presque comme de la conduite automobile où l'on ne risque pas de foncer dans une autre voiture, mais où on peut très bien se blesser? Est-ce une des leçons à tirer de cet accident tragique? Selon Curnier, une des conclusions de cette triste affaire, c'est qu'il faut apprendre à être conscient de son environnement et de se poser des questions quand on fait du sport. Fait-il trop chaud ou trop froid? Est-ce que je connais bien l'équipement? Un test médical au préalable? Pas une mauvaise idée, sachant toutefois qu'on ne peut jamais tout détecter et que certains programmes de dépistage systématiques ont été efficaces, d'autres moins. Il faut aussi s'assurer que quelqu'un d'autre est au courant d'où on est, de ce qu'on fait, de l'heure à laquelle on devrait normalement rentrer, de la séance d'exercice, ajoute Allenberg. La vitesse d'intervention est souvent cruciale. Par exemple, dans les cas de rupture d'anévrisme, on peut sauver des vies avec des interventions suffisamment rapides. Il faut que nos proches sachent quand commencer à s'inquiéter. Et la dernière leçon importante, selon Allenberg, c'est de constater et d'admettre que ce qui s'est passé était hautement improbable. Statistiquement, on parle d'un risque infime. Ce qui est beaucoup plus important statistiquement, ce sont les effets positifs de l'exercice sur la santé. Ces bienfaits, eux, ne sont pas rares, mais plutôt hyper fréquents. Le vrai risque, c'est la sédentarité. Alors, mon deuxième article concerne le réseau des croque-livres qui s'étend. Donc, ça a été publié par Marie-France Léger dans la Presse Plus le 9 mai dernier. Vous avez peut-être remarqué dans les parcs ou près des écoles de petites boîtes en forme de jolis monstres remplis de livres. Ces mini-bibliothèques sur pattes, croque-livres, servent de point de contact pour les échanges de bouquins pour enfants. Lancée l'automne dernier, la campagne Croque-Livre est aujourd'hui populaire dans 144 municipalités à travers le Québec. Ces boîtes amusantes servent à recueillir des dons de livres pour les enfants de moins de 12 ans. L'objectif est, entre autres, d'encourager les familles qui ne fréquentent pas les bibliothèques à trouver plus facilement des livres, soit à l'occasion d'une promenade avec bébé, soit quand vient le temps d'aller chercher les enfants à l'école. La Fondation Lucie et André Chagnon est à l'origine du mouvement au Québec avec un regroupement de partenaires comme des garderies et des centres communautaires. Selon Marie Amiotte de la Fondation, 350 boîtes ont jusqu'ici été commandées. L'idée est venue d'un mouvement similaire aux États-Unis, le Little Free Library, qui s'adresse de son côté aux lecteurs de tous les âges. Brigitte Fortin, enseignante de maternelle à l'école primaire Capitaine Luc Fortin d'Henryville, a été parmi les premières à participer à la campagne Croque-livre avec ses élèves. Elle explique que la réalité est différente dans les villages, où l'accès aux livres est plus difficile qu'en milieu urbain. En région rurale, les horaires des bibliothèques sont restreints et les parents sont souvent agriculteurs, vivent dans les rangs et font de longues heures. Pour les adultes aussi, le croque-livre de l'école Capitaine Luc Fortin, assemblé et décoré par les enfants de maternelle, a été inauguré la semaine dernière près d'une piste cyclable à côté de l'école. D'autres partenaires du Haut-Richelieu ont emboîté le pas, de même que le Centre de formation en entreprise et récupération, CFER, de la polyvalente Marcel Landry, qui a reçu le mandat de construire des boîtes plus grandes que le modèle original. « On veut maintenant faire une boîte pour les adultes », a précisé Mme Fortin. Si vous souhaitez participer à la campagne Croque-livre, le modèle de boîte prêt à assembler coûte 210 $ plus les frais de livraison. Vous pouvez également confectionner vous-même une boîte. Des plans peuvent être téléchargés sur le site de Croque-livre. À noter, les croque-livres assemblés et installés n'ont pas tous été épinglés sur la carte affichée sur le site Web.
Voici un article de Christelle Crépeau, rédactrice en chef, Châtelaine. Elle écrit dans le numéro de mai 2015, un ras-le-bol, son ras-le-bol de cette fois-ci, quatre aspects de la vie de mère moderne, entre guillemets, dont je me passerai. La fête d'enfants version 21e siècle. Premier ras-le-bol. C'est qui le premier parent qui a décidé que l'anniversaire de son chérubin devait être digne d'une foire champêtre ou d'un séjour à Mérinéland? Sait-il qu'il a créé un effet papillon? Aujourd'hui, la fête d'enfants standard nécessite des jeux gonflables, une gymnase hongroise, un poney ou un spa. Et je ne parle pas des sacs à surprise, dont la valeur dépasse largement celle des cadeaux que recevra le petit jubilaire. Bien sûr, il est encore possible de célébrer à la bonne franquette gâteau maison, jeux simples, quelques friandises en guise de remerciement. Mais ça veut dire exposer Junior à des commentaires comme « Il n'y aura pas d'animation? Je vais aller à la fête de Matisse demain ?» ou Hein, pas de sac à surprise, full poche. Bien sûr, on consolera un enfant en lui disant que ses vrais amis viendront pour lui dire, pour lui et non pour la partie. Et tant pis si on est moins nombreux. Mais dès qu'il sera couché, on publiera enfin cet avis de recherche pour mettre la main sur le parent maudit, instigateur de la fête gonflable. La police de la boîte à lunch. J'ai parfois un frisson en repensant au dîner d'écoliers des années 1980 et 1990. Ceux dont la portion de produits laitiers se résumait à la crème du petit gâteau vachon, ou les boissons fluo à saveur de fruits décapaient le palais, et où le mot fibre était réservé à l'industrie du textile. Sans compter la quantité de déchets que produisaient ces lunchs, surtout ceux trimballés dans les sacs de papier brun qui finissaient immanquablement aux poubelles. Je comprends très bien donc qu'on ait eu besoin de faire de la sensibilisation pour promouvoir une meilleure alimentation et des comportements plus écolos. Écologiques, disons. Mais dans certaines écoles, ce souci vire parfois à la tyrannie. on surveille les boîtes à linge et pas seulement pour traquer les allergènes, comme si les enfants de 6, 7 ou 8 ans étaient responsables de leur contenu. Près de chez moi, pendant un temps, on décernait des certificats à des élèves de maternelle dont les lunchs n'avaient généré aucun déchet durant toute la semaine. Honte à la petite Simone à qui les parents avaient donné une barre tendre pour un matin pressé. L'invasion Disney. Plus capable. Écœurée de vêtements, jouets, brosses à dents, calepins, trottinettes à l'effigie des personnages de films. Fée clochette. Flash McQueen, Reine des Neiges, nous sommes déjà condamnés à vous regarder en boucle. Je n'ai pas envie de vous voir en plus dans l'assiette de ma fille au petit déjeuner, ni sur les sièges de voiture de ma voisine. Merci de rester dans vos coffrets. DVD. Enfin, la journée thématique. Soirée pyjama, été en janvier, Saint-Valentin en rouge, chasse au trésor pour pirates, concert de fin d'année en vert jaune. Les calendriers d'école et de garderie sont parsemés de fêtes et d'activités spéciales. C'est chouette. C'est super chouette de pimenter le quotidien des petits loups. J'aimerais en faire autant au bureau. Mais quand ça implique un code vestimentaire ou des accessoires, je décroche. Non, je n'ai pas de cache-œil ni de bandana à la maison. Mes enfants n'ont aucun vêtement qui « matche » avec Cupidon, entre guillemets. Ni de sandales sous la main en plein mois de janvier. Pardon. Et mon niveau d'enthousiasme pour bricoler un déguisement un mardi soir ? Inversement proportionnel au nombre de journées thématiques. Voici la fin de mon article, mais j'aimerais ajouter une petite brève. À propos des enfants toujours, et là, on est dans le plus sérieux, concernant la vitamine D. C'est une petite brève que je suis allée chercher dans l'actualité de janvier 2015 par Dominique Forget et qui se dit « Qui dit meuf ? Les enfants qui boivent du lait de riz, d'amande ou de soja plutôt que du lait de vache sont deux fois plus à risque de souffrir d'une carence en vitamine D, essentielle au développement des os. » C'est ce qu'a découvert l'équipe du docteur Jonathan McGeer, pédiatre à l'hôpital St. Michael's de Toronto, qui a évalué 3821 enfants âgés de 1 à 6 ans. La réglementation canadienne oblige les producteurs de lait de vache à additionner leurs produits de vitamine D. Les fournisseurs d'autres types de lait peuvent eux aussi enrichir leurs boissons, mais n'y sont pas tenus par la loi. Le docteur McGeer encourage les parents à bien regarder les étiquettes et, au besoin, à trouver des sources supplémentaires de vitamine D, comme le poisson.
Donc, on va parler maintenant de l'esprit de l'animal compris par l'homme, qui a été écrit par Marie-France Léger dans la Presse Plus du 11 mai. Les animaux ont-ils la faculté de communiquer avec les êtres humains? Si plusieurs s'accordent pour dire qu'ils peuvent éprouver des émotions comme la peur ou la satisfaction, tous ne sont pas d'accord quant à leur capacité à échanger avec l'homme. La conférencière Leila Del Monte, en visite à Montréal la semaine dernière, vit actuellement aux États-Unis et se spécialise dans la communication avec les animaux depuis une dizaine d'années. De plus en plus populaire en Europe, elle est sollicitée par de nombreux vétérinaires afin notamment de mieux identifier les besoins de leurs clients à quatre pattes. Son credo, l'animal n'est pas inférieur à l'être humain. L'homme est le gardien plutôt que le maître de l'animal et doit tenter de le comprendre au lieu de lui attribuer des intentions. L'auteur de nombreux livres, dont « Communiquer avec les animaux » et « Quand le cheval guide l'homme », édition Vega, était en visite à Montréal la semaine dernière afin de donner deux séminaires sur le sujet. « Il y a une conscience de soi chez l'animal », affirme Mme Del Monte, titulaire d'une maîtrise en religion comparée de la Sorbonne. Ils ont conscience de leur environnement, des gens autour d'eux, de leurs émotions et de leur corps physique. Ils ont sans doute une autre forme d'intelligence que la nôtre. Afin de communiquer avec les animaux, Mme Del Monte connecte son esprit au leur pour comprendre leurs problèmes et mieux les aider. L'approche prônée par Mme Del Monte et jugée très ésotérique par certains vétérinaires, trouve ses racines chez les chamans d'Amérique centrale, qui donnent à l'animal une place d'égal à égal avec l'humain. Il y a un énorme contenu qui peut être transmis sans la parole. Pour les enfants, c'est tout à fait naturel. Les adultes ont oublié comment faire, explique-t-elle. Spécialiste du comportement félin, conférencier et animateur de l'émission Animaux à Radio-Canada, Daniel Filion ne croit pas que l'animal soit réellement en mesure de communiquer ses états d'âme à l'humain et vice-versa. Il explique notamment que l'empathie qu'on croit deviner chez les animaux envers nous s'expliquerait davantage par une logique comportementale. Quand on vit une situation anormale, l'animal peut en effet reconnaître notre état. Il sent notre changement corporel et émotif, mais ce n'est pas par une forme de télépathie. C'est plutôt parce qu'il craint l'insécurité du changement qu'il vient se coller sur nous, avance M. Filion. Leila Del Monte a collaboré à plusieurs émissions en France et en Belgique et a notamment animé le documentaire « Dans la peau des animaux » diffusé sur France 5. Et maintenant, un article publié le 16 avril dernier dans La Presse Plus par Sylvain Sarrazin, « Les vertus de la vapeur ». On parle ici de cuir avec ses paniers asiatiques là, à la vapeur, donc sans eau, mais en vapeur. Non seulement la cuisson à la vapeur confère-t-elle aux aliments une texture et des arômes savoureux, mais elle présente également de nombreux avantages d'un point de vue nutritionnel. Le panier, c'est santé. Ce type de cuisson, à température modérée et assez rapide, évite la destruction des nutriments. En outre, ces derniers ne migrent pas dans l'eau puisque les aliments ne sont pas en contact avec elle, rapporte la nutritionniste Linda Montpetit. Aussi, on évite l'apparition de diverses substances néfastes augmentant les risques de cancer, lesquelles se forment lors d'une cuisson en grillade. L'ajout de gras est superflu. La cuisson est homogène et les aliments restent tendres et moelleux, souligne Mme Montpetit. Manuela Vanni, auteure de l'ouvrage « Tout à la vapeur », pointe quant à elle la préservation des sels minéraux et des arômes, ainsi que le rendu final plus digeste. Des avantages similaires à ceux de la cuisson à la marguerite, bien que le panier conserve une longueur, enfin une grosseur d'avance, puisqu'il permet d'obtenir des quantités beaucoup plus volumineuses. Et pour finir ma portion, une nouvelle adresse pour acheter local, publiée le 5 mai par Isabelle Morin dans La Presse Plus. Les artisans de la mode québécoise ont désormais une vitrine où exposer et vendre leurs créations en plein cœur du centre-ville, dans les promenades cathédrales. L'autre couture, qui a ouvert ses portes hier, se veut un point de convergence des créateurs de mode d'ici et d'une clientèle sensibilisée au fait d'acheter local. Par son emplacement, elle pourra également faire connaître le travail des designers québécois et canadiens à un nouveau public qui n'a pas nécessairement la mode locale dans sa ligne de mire. La boutique viendra ainsi appuyer une industrie qui a bien des besoins de soutien et d'endroits qui non seulement mettent en valeur ses créations, mais permettent également au public d'en faire l'acquisition, chose rare en ville. À l'origine de ce projet, mûri depuis 2 ans, le designer et homme d'affaires Luco Marion de la griffe Luco, qui conçoit son projet comme une nouvelle approche de la mode, permettant notamment à une clientèle élargie d'avoir accès à une salle d'exposition pensée pour elle. Une fois par mois, des micro-défilés seront d'ailleurs présentés afin de promouvoir le travail d'un designer et de favoriser les échanges avec le public. C'est un second souffle qui est offert à l'industrie, mais surtout une chance pour les créateurs moins fortunés et moins connus de se tailler une place et de se faire aimer. Une véritable croisade pour nous tous, mentionne Luco Marion par voie de communiqué. Les designers ne sont pas seuls, je veux qu'ils le sachent. Luco Marion, fondateur de L'Autre Couture.
petite ville, on était juste 4000, puis la rue principale s'appelait Saint-Cyril. La coop, le casse-bord, la caisse pop, le croque-mort et le magasin général. Là, quand j'y retourne, ça me faisait mal. Il est tombé une bombe sa rue principale depuis qu'ils ont construit le centre d'achat. L'autre jour, j'ai amené ma bien-aimée pour y montrer où c'est que j'étais né. Aussitôt arrivé, me blanc en bourgeois le vert. Ça avait l'air de Val-Jalbert. Quand j'y retourne, ça me faisait mal. Il est tombé une bombe sa rue principale depuis qu'ils ont construit le centre d'achat. Ouais! Une bonne journée, je y retourne avec mon bulldozer. Puis le centre d'achat, il va passer un mauvais quart d'heure. Sur la grande rue, c'était plus vivant que ça. Des petits culs en bicycle, des cousines en visite. C'était noir de monde comme en Afrique. Quand j'y retourne, c'est pathétique. Ça va tomber mal, sa rue principale. Depuis qu'ils ont construit le McDonald's.
Voici Patrick Esposito du Napoli.
Ils sont plus rien que 3000, puis la rue principale est devenue bien tranquille. L'épicerie est partie, le cinéma aussi, et le motel est démoli. Ah, quand j'y retourne, ça me fait mal. Il est tombé une bombe sa rue principale depuis qu'ils ont construit le centre d'achat. Oh, ah! Une bonne journée, je vais y retourner avec mon bulldozer. Puis le centre d'achat, il va passer. Dans ma petite ville, on était juste 4000, puis la rue principale s'appelait Saint-Cyril. La coop, le casse-bord, la caisse-pop, le croque-mort et le magasin général. Là, quand j'y retourne, ça me fait mal. Il est tombé une bombe sa rue principale depuis qu'ils ont construit le centre d'achat. Le centre d'achat. Le centre d'achat. Le centre d'achat.
C'est le temps de sortir dehors, il fait beau. Alors voilà, revenons un petit peu aux sources, principes et pratiques de la culture biologique. C'est un sujet donné dans la maison du XXIe siècle par Daniel Jacques, agronome du Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec, le numéro d'hiver 2015. La culture des fruits, des légumes ou des céréales en mode biologique se fait sans aucun engrais, herbicide ou autre pesticide chimique de synthèse, ni aucun organisme génétiquement modifié, ce qu'on appelle les OGM. L'absence de telles substances dans la production motive grandement les consommateurs qui se nourrissent d'aliments bio. Toutefois, connaît-on vraiment les fondements de la culture biologique et les pratiques utilisées par ces producteurs ? Telle était l'introduction. Les principes fondamentaux. Selon plusieurs ouvrages spécialisés, un des principes fondamentaux de la culture biologique consiste à nourrir le sol pour nourrir les plantes. Jusque-là, on suit. En plus d'améliorer la structure du sol, les amendements organiques naturels, fumier, compost, sont transformés en éléments fertilisants, assimilables par les plantes sous l'action des vers de terre, des micro-organismes, etc. Il est donc primordial de protéger la vie du sol en s'assurant que les conditions sont favorables à la croissance de ces organismes. sachant que l'activité biologique est réduite dans un sol pauvre en matière organique, compacté ou mal aéré. Un autre grand principe de la culture biologique consiste à préserver la biodiversité du milieu, c'est-à-dire favoriser la présence de plusieurs espèces et écosystèmes en relation les uns avec les autres. Ainsi, il peut être utile de conserver autour des champs cultivés des habitats, pour des insectes bénéfiques, des habitats qu'on appelle refuges, qui agiront à titre de prédateurs naturels contre les ravageurs. La coccinelle, par exemple, est un insecte bénéfique et efficace contre les pucerons et contre les œufs et larves de doryphores dans les champs de pommes de terre. Prévenir plutôt que guérir. Quel que soit le mode de culture, traditionnel, biologique, tous les producteurs utilisent divers moyens pour prévenir l'apparition de maladies et de ravageurs dans les plantations. Toutefois, la prévention est un élément crucial de la production biologique, les moyens de lutte directe étant somme toute plus restreints. Lorsque cela est possible, les producteurs choisissent des cultivars reconnus pour être moins sensibles à certaines maladies ou à l'attaque de ravageurs. Les pratiques culturales adoptées par la suite deviennent autant de pratiques de prévention, comme la plantation de légumes sur but, l'espacement adéquat des plants pour favoriser une bonne aération, un drainage approprié et finalement l'irrigation goutte à goutte ou par aspersion, le matin plutôt qu'en fin de journée pour accélérer le séchage des feuilles afin d'éviter le développement des maladies fongiques. On notera en passant que ça s'applique autant aussi à nos petits jardins communautaires ou pas. Il est important d'assurer un environnement propre autour des champs et dans les cultures et de retirer les déchets pouvant abriter des organismes pathogènes et autres ravageurs. Enfin, la rotation de deux cultures différentes sur une même parcelle contribue à maintenir la fertilité du sol. Par exemple, la culture d'engrais verts, comme le sarrasin, que l'on enfouit en fin de saison, est idéale pour enrichir le sol. La rotation limite aussi l'apparition de certaines maladies et de ravageurs spécifiques à telle ou telle culture. L'auteur poursuit en disant « Un certain nombre d'individus appartenant à une espèce nuisible, insecte ou autre, peuvent être tolérés dans une culture tant qu'ils ne causent pas de dommages importants. » Outre la surveillance à la ferme, les producteurs peuvent, eux, compter sur les observations et les recommandations du réseau d'avertissement phytosanitaire coordonné par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries, de l'Alimentation du Québec. Afin de savoir à quel moment intervenir, le cas échéant, pour lutter contre une espèce nuisible, les producteurs de nourriture bio utilisent entre autres des pièges collants ou à phéromones, des produits à base de plantes ou de substances minérales, donc, et des savants insecticides, sans oublier les agents de lutte biologique, prédateurs et parasites naturels des ravageurs. Les mauvaises herbes dans tout ça? Outre le sarclage mécanique ou manuel, les producteurs bio ont accès à différents moyens pour lutter contre ces indésirables. Jachères pour se débarrasser des mauvaises herbes, vivaces, paillis biodégradables, produits à base de substances végétales ou minérales, etc. Quelques informations plus techniques. La certification, elle, c'est du sérieux. Au terme de la loi sur les appellations réservées et les termes valorisants, l'appellation biologique est une appellation réservée. Pour qu'un produit du Québec soit commercialisé sous cette appellation, il doit provenir d'une entreprise certifiée par un organisme de certification. En 2012, 1352 entreprises agricoles québécoises, toutes productions confondues, incluant la sériculture, de transformation ou de distribution, détenait un certificat de conformité biologique. On pense par exemple à Écosser Canada ou Québec Vrai. Pour en savoir davantage, Écosser Canada sur le web, Québec Vrai, le maraîchage biologique diversifié, guide de gestion globale, www.craaq.qc.ca, publication.
Alors, une petite brève sur la pomme. Si vous consommez une pomme par jour dans l'espoir d'éloigner vos visites chez le médecin, il faudrait peut-être trouver une autre raison d'en manger. Le populaire dicton n'a pas d'assise scientifique selon une étude américaine publiée récemment dans la revue JAMA, J-A-M-A, Internal Medicine. Les chercheurs ont analysé les données de 8728 consommateurs et 9% d'entre eux mangeaient au moins une petite pomme par jour. Les gens qui mangent une pomme par jour ont un profil sociodémographique différent des autres. Ils sont plus éduqués et fument moins, comme on peut en douter, et proviennent plus souvent des minorités ethniques. Une fois ces variables ajustées, toutefois, ils vont voir leur médecin, aussi souvent que les autres. Par contre, les chercheurs ont déterminé qu'une petite part des mangeurs de pommes quotidiens consomment moins de médicaments d'ordonnance que les autres.
Voici quelques lignes sur l'obésité, un petit article paru dans l'actualité par Dominique Forget, Santé. Plutôt que d'indiquer, fini les calories, on se demande, plutôt que d'indiquer le nombre de calories sur les emballages des aliments, la professeure Sarah Blige de l'université Johns Hopkins à Baltimore, dans le Maryland, propose d'inscrire l'effort physique nécessaire pour les éliminer. Sur une bouteille de coca de 590 ml, par exemple, au lieu de 240 calories, on pourrait lire 50 minutes de jogging, voilà une bonne idée. Des essais préliminaires menés dans un dépanneur de Baltimore ont montré que cette mesure poussait les consommateurs à acheter des boissons, gazeuses et des jus de fruits de petit format.
C'est une bonne information. On va passer maintenant dans les pelures de patates. Les pelures de patates pour enlever des verrues. Réalité, les pelures de patates seront efficaces environ une fois sur quatre. En fait, souligne le dermatologue Alain Dansereau, que ce soit des pelures de patates, de l'huile de Saint-Joseph ou un autre traitement maison, si on a confiance que la verrue va partir, elle va partir dans environ 28 % des cas. Le grand responsable, l'effet placebo. La simple croyance qu'un traitement va fonctionner peut stimuler le système de défense à combattre la verrue qui est causée par un virus. C'est encore plus valable pour les enfants, dit le docteur Dansereau, qui n'hésite pas à donner à ses petits patients des seringues Harry Potter pour qu'ils injectent eux-mêmes leur verrue avec l'eau du bain ou encore à leur acheter leur verrue pour 25 cents. Plus réfractaires à ce genre de suggestions, les adultes peuvent essayer les produits en vente dans les pharmacies. Il existe aussi différents traitements médicaux efficaces, notamment pour les verrues plantaires plus durables et pour les verrues réfractaires. Et pour finir nos petites brèves de bouffe, passons aux carottes. Les carottes sont riches en c'est bon pour les yeux, les carottes. Oui, les carottes sont riches en bêta-carotène qui se convertit en vitamine A dans l'organisme. Et le bêta joue effectivement un rôle dans la vision. Il permet notamment à l'œil de s'adapter à l'obscurité, explique Marie-Josée Leblanc, nutritionniste et coordonnatrice d'Extenso, le centre de référence sur la nutrition de l'Université de Montréal. Ce n'est pas tout. La vitamine A peut aussi retarder la progression des maladies de l'œil liées à l'âge, comme la dégénérescence maculaire et le glaucome. Par contre, le bêta-carotène ne peut pas diminuer les problèmes de vision, comme la myopie, ni prévenir la presbytie et l'astigmatisme. Soulignons que tous les fruits et les légumes jaunes ou orangés sont une bonne source en bêta-carotène, cantaloupe, papaye, patate douce, citrouille. Idem pour les légumes feuillus comme l'épinard, la laitue ou le bok choy.
Merci Louise, l'émission touche à sa fin, tout ça était bien intéressant. Alors voilà, donc merci à toute l'équipe, merci à Louise, à Jean-Sébastien, Mathieu Tessier, les techniciens. Merci d'être à l'écoute. Vous pouvez nous retrouver donc sur canalm.org pour avoir accès à toutes les émissions, faire vos commentaires sur canalm@vue.com. À la semaine prochaine, reprise à 13h-21h, prochain rendez-vous, donc mercredi.